Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la fièvre méditerranéenne familiale. Et pour évoquer son diagnostic, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Sophie Georgin-Lavial. Professeur Georgin-Lavial, bonjour.
Bonjour.
Professeur Georgin-Lavial, vous êtes médecin interniste au sein du service de médecine interne de l'hôpital Tenon à Paris. Vous êtes responsable du centre constitutif adulte du CEREMAIA, le centre de référence des maladies auto-inflammatoires et de l'amylose, sous l'égide de la filière FAI2R. Et vous avez également coordonné le récent PNDS, le protocole national de diagnostic et de soins, sur la fièvre méditerranéenne familiale, paru en novembre 2022. Tout d'abord, professeur Georgin-Lavial, quels sont les principaux signes d'alerte de la fièvre méditerranéenne familiale ?
La fièvre méditerranéenne familiale, alors il se peut qu'après je dise FMF. Je tiens aussi à préciser que par le passé, elle s'appelait maladie périodique, mais maintenant on utilise le terme de FMF. Les patients présentent des accès typiques récurrents de cette maladie, et pendant ces accès, il y a de la fièvre, qui est généralement supérieure à 38 degrés Celsius pendant 12 à 72 heures, avec au premier plan des douleurs abdominales par inflammation du péritoine, donc une forme de péritonite aseptique. Les patients peuvent également présenter des douleurs thoraciques, parce qu'il peut y avoir des inflammations de la plèvre ou du péricarde. Ils peuvent également avoir des inflammations des grosses articulations. Les trois qui sont principalement touchés, ce sont les genoux, les chevilles, voire les hanches. Et dans notre expérience, c'est un tout petit peu plus à l'adolescence qu'on peut avoir l'atteinte des genoux et des chevilles. Alors, un petit bémol, attention, la fièvre peut être isolée ou bien non ressentie par le patient ou non prise. Donc, certains patients peuvent dire qu'ils ont mal au ventre, mais ne pas préciser qu'ils ont de la fièvre. Par ailleurs, la fièvre peut aussi se manifester par des frissons de façon un petit peu plus rare. Alors, ces poussées, elles évoluent sous au moins une à deux voire trois jours, mais parfois ça peut être plus court, quelques heures ou plus long, notamment quand il y a des formes sévères avec des atteintes articulaires. Et ce qui est important, c'est qu'elles sont séparées par des intervalles libres de durée variable, pendant lesquels les patients n'ont pas de douleur. Et pour alerter, on a vu que c'est la question sur cette maladie, il faut au moins trois épisodes avant d'évoquer la possibilité d'une fièvre méditerranéenne familiale. Et bien sûr, on vient de le voir, la fréquence des poussées varie et variable. Hein. Parfois, ça peut être une fois par semaine, surtout dans la jeunesse. Et parfois, ça peut devenir plus rare, une à deux fois par an. Alors, on doit aussi l'évoquer, une fois qu'on a ces signes d'alerte, en fonction des origines des patients. Il faut qu'ils aient au moins un grand-parent de chaque côté, d'origine méditerranéenne. Comme c'est une maladie récessive, il faut qu'ils héritent d'une mutation de leur père, une mutation de leur mère. Donc, il faut qu'il y ait au moins des ascendants méditerranéens des deux côtés. Et enfin, si jamais les parents sont apparentés, ça veut dire qu'ils sont cousins, ça, c'est un argument de plus pour la maladie parce qu'elle est récessive et il faut deux mutations pour l'exprimer, comme on l'a vu juste avant. Du coup, il y a plusieurs arguments cliniques, notamment dans l'histoire de la maladie du patient, qui vont être renforcés par des signes biologiques. Il va être nécessaire de prélever le patient pendant une crise pour voir s'il y a de l'inflammation. Et le meilleur marqueur de cette inflammation, ça va être la C-réactive protéine qui sera obligatoirement élevée pendant les crises. Si elle n'est pas élevée, ça récuse le diagnostic de la fièvre méditerranéenne familiale et ça va ensuite conduire à poursuivre les explorations, notamment génétiques.
Et est-ce qu'il y a des spécificités chez l'enfant ?
En effet, il y a quelques spécificités. La FMF se manifeste habituellement entre 4 et 7 ans pour les premiers symptômes, mais 10% des patients ont un début avant l'âge de 1 an. Et chez ces tout petits enfants de moins de 1 an, la fièvre peut parfois être isolée, ce qui peut conduire à un retard diagnostique. Enfin, chez les enfants entre les crises, ils peuvent garder un certain degré de fatigue post-critique, surtout si elle a été intense ou que les intervalles sont rapprochés, par exemple toutes les semaines. Une autre particularité des enfants, 50% d'entre eux ne sont pas totalement asymptomatiques entre les crises, mais ils peuvent présenter des douleurs musculaires, qu'on appelle les myalgies d'effort, qui sont le plus souvent dans les mollets, sur les plantes de pied, et parfois dans les cuisses. Ils peuvent garder des œdèmes transitoires des chevilles qui peuvent remonter jusqu'aux mollets. Et pour terminer, il y a certains patients, ceux qui ont au moins un variant qui s'appelle M694V, qui est un des plus sévères, qui ne vont pas vraiment présenter de crise, mais plutôt un syndrome douloureux chronique avec un fond fort digestif et encore ces myalgies. Et chez eux, c'est vraiment le fait de pratiquer une prise de sang qui va montrer de l'inflammation avec une élévation quasiment permanente de la CRP au-delà de 15 mg par litre qui va orienter vers le diagnostic d'une maladie inflammatoire et donc de la fièvre méditerranéenne familiale.
Et qui sont les médecins qui sont susceptibles de rencontrer des patients touchés?
Alors, c'est une question très importante. Vous avez bien fait de la poser. Si c'est un enfant, on vient de parler des enfants juste à l'instant, ce sera son pédiatre ou son médecin généraliste s'il n'a pas de pédiatre. Mais ça peut être aussi des médecins des urgences pédiatriques. Et encore là, ça peut être des internes ou des seniors. C'est très important d'y penser si l'enfant présente à répétition des douleurs abdominales ou thoraciques fébriles. Et à ce moment-là, de demander un dosage de la C-réactive protéine pour attester du caractère inflammatoire. Un autre motif de consultation un peu en urgence, c'est la crise de cheville, qui peut être une arthrite ou un pseudo-érysipèle. Et il faudra vraiment la relier au reste des manifestations, notamment des manifestations douloureuses, et ne pas l'attribuer à une cause infectieuse, parce que sinon, on peut donner des antibiotiques en croyant que c'est un érysipèle. Enfin, une autre catégorie de médecins, notamment pour les enfants, ça peut être un neurologue s'il y a une inflammation de la vaginale testiculaire qui va être responsable d'une orchite. Alors, si le patient est un adulte, ce sera son médecin traitant qui sera en première ligne, puis, un peu comme en pédiatrie, les médecins urgentistes pour les crises aiguës abdominales. Ensuite, si jamais le patient a au premier plan des douleurs des chevilles ou des genoux, là, ça pourrait être un rhumatologue. Enfin, on a vu que les douleurs abdominales sont au premier plan, donc cela peut être un gastro-entérologue ou bien un chirurgien digestif, si le patient a des douleurs tellement intenses que ça peut mimer un ventre chirurgical. On a plusieurs exemples de patients chez qui le diagnostic a été évoqué par un chirurgien ou gastro-entérologue qui a redressé le diagnostic après parfois des laparotomies blanches. Enfin, quand il y a une complication rénale avec un syndrome néphrotique pouvant faire découvrir une amylose inflammatoire, qui est la complication la plus sévère de la fièvre mitérane familiale, eh bien, ce sera le néphrologue qui va s'occuper de la maladie rénale, qui va y penser et faire le diagnostic ou l'adresser à un spécialiste de cette maladie. Donc, vous voyez la diversité des présentations cliniques et des médecins susceptibles de rencontrer ces patients. Et il est du coup très important de la connaître pour y penser et faire le diagnostic et bien sûr débuter rapidement un traitement.
Et ensuite, professeur Georgin Labial, comment effectuer le diagnostic en tant que tel?
Initialement, il y a même une vingtaine d'années, le diagnostic était basé uniquement sur un faisceau d'arguments cliniques et anamnestiques. En 2023, nous pensons, en 2023, donc c'est l'année au cours de laquelle j'enregistre ce podcast, nous pensons, et les recommandations européennes le précisent, que le diagnostic de certitude doit être génétique. Il faut demander une analyse génétique par la technique de Sanger, qui est la technique gold standard d'analyse génétique, de l'exon 10 du gène de la fièvre maternelle, qui est le gène MEFV, puisque c'est dans cet exon que sont situées l'immense majorité des mutations responsables de la maladie. Et si jamais ce résultat est négatif, mais que le tableau est très évocateur, on peut discuter avec les généticiens et demander une analyse un peu plus moderne qui va être un séquençage nouvelle génération pour rechercher des mutations qui sont très rarement situées dans un autre exon du gène ou une exceptionnelle mutation en mosaïque qui est vraiment rarissime dans cette maladie. Et voilà, donc ça se fait par une prise de sang, tout simplement. Ça peut se faire en laboratoire de ville ou bien dans un centre hospitalier. Et le résultat revient en général entre 1 et 2 mois.
Et en termes de diagnostic différentiel, quels sont ceux qu'il faut écarter?
Alors, quand il y a une crise aiguë très douloureuse, il faut éliminer des urgences chirurgicales comme l'appendicite chez les jeunes ou une diverticulite chez des personnes un peu plus âgées. On a parlé tout à l'heure des atteintes testiculaires, donc ça peut être une torsion testiculaire en cas d'orthite. Quand il y a une douleur abdominale récurrente, ça peut être des causes vraiment banales, hein, comme un ulcère gastrique, une colique néphrétique, ou bien chez une femme, de l'endométriose ou des dysménorrhées. D'ailleurs, en cas de règles, on peut avoir des crises abdominales chez les femmes. Quand c'est une douleur thoracique au premier plan, il faut éliminer une pleurésie, notamment infectieuse, ou une péricardite, ou plus rarement, une embolie pulmonaire ou un pneumothorax. Et en cas de fièvre récurrente avec douleur abdominale et inflammation dans le sang, confirmée par la CRP, et là, il faut penser à des maladies plus fréquentes, comme les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, par exemple la maladie de Crohn, ou bien une autre maladie auto-inflammatoire monogénique, dont fait partie la fièvre mitérane familiale, mais les autres sont beaucoup plus rares et ne donnent pas un tableau aussi caractéristique.
Et dans ce cadre, pourquoi est-ce qu'il est important d'évaluer la qualité de vie des patients?
Eh bien, en fait, seul l'écoute des patients permet d'estimer le retentissement de la maladie sur leur qualité de vie. Et donc, dans cette maladie, la fièvre interne familiale, il convient de colliger le nombre de crises des 6 derniers mois, qui doit être théoriquement de 0 ou de 1, sous un traitement bien pris, bien adapté. Il est également important de demander si le patient ressent des douleurs des muscles, des jambes en fin de journée et si la maladie l'empêche de sortir le soir ou le week-end ou d'avoir une vie personnelle et professionnelle épanouie. Et cette évaluation de sa qualité de vie va nous permettre d'adapter au mieux le traitement de fond et le traitement des crises et surtout de discuter des moyens de prévenir les crises. Il y en a pas mal. Si on n'aborde pas cette question avec le patient en consultation, on ne pourra pas optimiser son traitement.
Pour conclure notre entretien, professeur Georges Lavial, une fois le diagnostic posé, à qui adresser ces patients ?
Alors, il s'agit d'une maladie rare qui peut avoir des complications sévères, notamment l'atteinte des reins, voire l'atteinte du foie. Elle nécessite donc un suivi spécialisé au moins une fois par an par un médecin qui a l'habitude de suivre des patients avec fièvre méditerranéenne familiale. Ce médecin peut être un interniste, un rhumatologue ou un pédiatre. Il semble raisonnable d'être suivi dans un centre de référence dédié à cette maladie, plus ou moins conjointement si nécessaire avec un médecin d'un centre de compétences ou avec son médecin traitant. En effet, un tel suivi permettra d'ajuster le traitement de fond et de prodiguer des conseils issus des dernières actualités internationales sur la prise en charge et le suivi de la fièvre méditerranéenne familiale. Ainsi, il existe des centres experts en Île-de-France, dans les hôpitaux de Thenon pour les adultes, dans les hôpitaux du Kremlin-Bicêtre et de Versailles pour les enfants, et d'autres centres de compétences dans la filière de santé des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires, FAI2R, dont vous pouvez retrouver la liste sur le site FAI2R.
Eh bien, merci mille fois, professeur Georges Lavial, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est la fièvre méditerranéenne familiale. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite !